Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série merveilleuse concernant l'amour de Dieu. Nous sommes à l'étude numéro 5 et le titre pour aujourd'hui sera « L'amour dans le mariage ». Le mariage, c'est deux vies menées ensemble jusqu'à la fin. Oui, il commence le jour où deux personnes qui s'aiment sont unies par les liens sacrés du mariage. Cependant, le livre de famille qui leur est remis ne garantit pas l'amour. Oui, c'est vrai, ça ne garantit absolument pas que les deux vont s'aimer tendrement durant toute leur vie. Ce n'est en somme qu'un document assez impuissant à lier deux êtres ensemble. Une seule chose peut les attacher l'un à l'autre, c'est l'amour. L'amour est la grande force de cohésion qui tient les atomes et la matière de l'univers en un tout. Il unit donc les familles, les amis, une nation et ainsi également un couple. Si l'amour disparaissait, tout tomberait en ruine et on peut dire se désintégrerait. Quand quelqu'un met l'amour de côté dans sa vie, il s'effondre tôt ou tard. Si l'amour n'est pas éternel, il y aura longtemps que chaque atome créé par Dieu aura été anéanti. Je répète cela un peu différemment. Si l'amour n'est pas éternel, il y aurait longtemps que chaque atome qui a été créé par Dieu serait détruit. L'unité au sein d'un mariage est davantage, bien plus, qu'une simple attirance physique ou une similitude de goût. Elle doit venir de l'amour, un amour pur, éternel, et qui sera le don de Dieu pour tous les deux. Nous avons donc besoin, plus que jamais, de cette unité aujourd'hui. Elle s'avère nécessaire dans les relations entre mari et femme et dans les familles. La situation est désespérée. Il doit exister quelque part un modèle à suivre pour sauver les familles et les relations conjugales. Dieu merci, il y en a un, non dans les conseils d'un psychiatre, mais dans la sainte parole de Dieu. Beaucoup sont rebutés par les propos que saint Paul écrit aux maris et aux femmes dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5. Pourquoi ? Parce qu'ils sont assez forts, ces propos. Mais voyez-vous, s'il nous faudrait examiner l'ensemble des avertissements de l'apôtre pour y trouver l'équilibre, n'en prendre par exemple qu'une partie fait peser la responsabilité sur un seul membre du couple. L'apôtre Paul s'adresse au mari, mais il s'adresse également aux femmes. Il s'agit en quelque sorte d'une balance. Donc, aucune nation ne peut réussir si les deux partenaires ne jouent pas leur rôle. Et également, aucune union ne peut réussir si les deux partenaires ne jouent pas. par leur rôle. Et cela selon les conseils inspirés de Saint Paul. Il les a inspirés pour l'Église. Alors, étudions-les un peu de plus près. Par exemple, prenons Éphésiens chapitre 5, verset 22. L'apôtre Paul commence d'emblée, il dit « Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme comme aussi Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur ou gardien du corps. » Évidemment, ce verset ne plaît plus aux femmes modernes et qui sont plus que épanouies, n'est-ce pas? C'est le féminisme à l'extrême. Et donc, elles se rebutent. Elles ne sont pas d'accord sur ce qu'explique l'apôtre Paul. Mais nous devons prendre cela quand même au sérieux, parce que c'est tout aussi sérieux ce que le mari doit obéir et faire. Ce n'est donc pas seulement la femme, surtout pas, mais le mari, il reçoit encore davantage de recommandations. Alors si vous voulez, on pourrait reprendre que l'apôtre Paul, il dit simplement aux femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme le Seigneur, il est soumis à son Père, et donc, soyez soumises au mari, comme vous êtes soumises au Seigneur. C'est pas plus difficile que ça. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 18, l'apôtre traitant du même sujet, il précise « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Comme il convient. Alors l'apôtre Paul parle au couple de l'Église. Il leur donne une règle de vie à suivre pour être paisible et heureux. C'est un ordre divin, de même que Christ est le chef de l'Église, le mari est le chef de la femme et de la famille. Dieu, le Père, a établi ce modèle pour maintenir l'ordre, simplement pour maintenir l'ordre dans la famille. L'homme et la femme forment ainsi un seul corps. Il est absolument impossible qu'un corps ait deux têtes, car ce serait un monstre. Le mari est donc le symbole de Dieu, et quand Dieu a créé Adam, il l'a créé à son image. L'homme a donc été formé pour porter la responsabilité de la famille, ce n'est pas peu de chose, et être le prêtre de sa maisonnée. Il a donc au départ beaucoup de responsabilités, bien sûr, avec l'état moderne dans lequel nous vivons. Malheureusement, toutes ces choses ont changé, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, le mari devait prendre soin des siens et il devait même pourvoir à leurs besoins. Il devait, en quelque sorte, protéger sa femme et ses enfants. Dieu lui a donné une force musculaire un peu supérieure pour lui permettre de remplir son rôle. Par sa position de sacrificateur, il représentait Dieu en quelque sorte aux yeux de sa famille. Les hommes ont donc besoin de connaître leur importance dans le plan divin, car il leur a été confié un grand honneur et une responsabilité. Quand une femme essaye, aujourd'hui, de plus en plus, de prendre la place de l'homme, elle va pas supporter ça très longtemps. Je sais qu'en raison des circonstances, bien sûr, de la vie moderne d'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont dû assumer le rôle à la fois du père et de la mère. Et elles portent donc un fardeau qu'elle n'a jamais été appelée à porter, et seule la force infinie de Dieu lui permet d'assumer tout cela. Plus beaucoup de sœurs ont élevé ces enfants et elles s'en sont bien sorties, et surtout avec l'aide du Seigneur. Mais voyez-vous, ce n'est pas du tout Dieu qui a voulu, qui a vraiment voulu mettre sur ses épaules toutes ces charges exagérées. Je respecte et j'estime ces sœurs qui ont courageusement élevé des enfants privés de père. Elles n'étaient souvent pas à blâmer pour le rôle qu'elles devaient jouer. Elles ont été, malgré elles, placées dans des situations de divorce qui les ont laissées sans défense, et cela dans des circonstances qui les dépassaient souvent, jusqu'à ce que Dieu intervienne et les aide d'une façon surnaturelle. Mais il ne l'avait pas voulu ainsi. Je répète, Dieu n'a pas voulu que cela soit ainsi, bien au contraire. Il les avait créés mâles et femelles, selon la Genèse, chapitre 1, verset 27. Donc, lorsque l'Éternel a créé Adam, il, on peut dire, lui a confié le jardin pour, nous dit la Sainte Bible, pour le garder et pour le cultiver. Genèse chapitre 2, verset 15. Le premier homme qu'il a formé était donc agriculteur. Dieu a fait venir les animaux vers Adam pour voir comment il les nommerait, et toutes les créatures vivantes ont gardé le nom qu'il leur a donné, quel qu'il ait été. Donc l'homme attribua des noms à tout le bétail, à tous les oiseaux des cieux, et on peut dire également à toutes les bêtes des champs. Genèse chapitre 2 verset 19 et 20. Donc Adam avait une relation d'affection avec tous ces animaux et comprenait leurs réactions. Personne n'aime son chien plus qu'Adam a aimé les bêtes auxquelles il a donné un nom. Cependant, il se sentait malgré tout seul. Il lui manquait une relation d'égal à égal, car l'esprit du chien et celui d'Adam ne pensaient pas du tout de la même façon. Ils appartenaient à un ordre différent. Alors l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je lui ferai une aide qui lui correspond. » Genèse chapitre 2, verset 18. La traduction biblique en allemand moderne dit « il n'est pas bon pour l'homme d'être dans la solitude. On le voit de plus en plus aujourd'hui. Et donc, je lui ferai un consolateur, une consolatrice qui vive avec lui. La femme, elle n'a donc pas été créée pour être son esclave, surtout pas, mais pour être son réconfort. Un homme a autant besoin de réconfort qu'une femme, car il fait face chaque jour à un monde dur, tandis qu'elle reste à la maison. Malheureusement, aujourd'hui, les choses ont changé, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors donc, elle est en principe, ou elle devrait être en principe, davantage protégée, entourée de ceux qui l'aiment. Alors quand l'homme rentre du champ de bataille, exemple, les bureaux, l'usine ou les champs. Et dans ce cas, il a besoin du soutien de la femme qui, elle seule, peut le lui procurer. Il est parfois comme un petit garçon qui a besoin de sa mère. Il n'y a rien de mal, quelquefois, à materner votre mari. Voyez-vous, les Indiens, je parle des Indes, ils disent que l'amour parfait d'une épouse, elle a quatre visages. Voilà ce qu'ils disent. Premièrement, elle a le visage de celui d'une mère. Deuxièmement, celui d'une sœur. Troisièmement, celui d'une amie. Et quatrièmement, celui d'une amante. Eh oui, et c'est en l'aimant de ces quatre façons-là que son amour pour son mari sera complet. Dieu a fait venir un profond sommeil sur l'homme. Et cela fut le premier cas terrestre d'anesthésie. Pendant qu'Adam dormait, Dieu accomplissait une opération. Dieu a pris une côte d'Adam, mais certaines traductions plus anciennes nous disent Dieu a pris une cellule d'Adam. Une cellule se définit comme une petite parcelle ou espace clos faisant partie d'un tout. On pourrait également traduire ce verset ainsi, Dieu a pris une matrice d'Adam car la définition de la matrice est parallèle sur certains points à celle de la cellule. Le dictionnaire Webster décrit l'utérus comme étant le creux ou l'espace dans lequel quelque chose est engendré. Nous pouvons en déduire que Dieu a pris la cellule ou la matrice d'Adam et en a tiré la femme. Cela ne nous surprendra pas quand nous comprenons très clairement ce que la Sainte Bible déclare sur la création de l'homme à l'image divine. Dieu n'est pas seulement mâle, il est aussi femelle. L'un de ses noms est El Shaddai. Eh bien, on dit cela un peu comme ça sans trop savoir ce que ça veut dire. El Shaddai, ça veut dire Dieu mère. Nous ne voyons la plénitude divine qu'en réalisant cette vérité. Donc, Dieu est à la fois mâle et femelle et possède à la fois l'amour paternel et l'amour maternel. Ainsi, quand l'Éternel a formé Adam, il l'a fait à sa ressemblance, plaçant en lui les caractéristiques mâles et femelles. Quand il créa l'aide d'Adam, nous savons maintenant qui c'est, il fallait qu'il prenne donc en quelque sorte un élément propre à l'homme auquel celui-ci pourrait s'identifier et qui conduirait donc ainsi à une harmonie et une compréhension parfaite. Ce serait l'unité la plus forte que deux créatures posséderaient sur terre. Ainsi, l'homme devait être plus proche de sa femme que de toute autre créature divine. Voyez-vous, aucun couple animal n'a ce lien conçu et qui a été créé par Dieu. Et c'est pourquoi un chien peut s'accoupler avec n'importe quelle autre chienne. Et il en est de même pour tous les animaux. Seul l'homme devait être uni à sa compagne, et cela de manière permanente, parce que Dieu les avait créés mâles et femelles dès le commencement. Bien sûr, quand j'ai dit qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal, on a bien compris que c'est vrai. Et en principe, l'animal peut donc s'accoupler avec d'autres animaux de son genre. Bien que il y a quelques animaux, et on oublie cela, qui restent fidèles toute une vie à leur compagnon ou à leur compagne, en quelque sorte, à leur femelle ou à leur mâle. On pense par exemple aux aigles, on pense à l'éléphant et d'autres animaux également. Mais ce sont une minorité, bien entendu. Mais c'est tout de même pas pareil comme entre l'homme et la femme. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Dieu les avait créés, mâle et femelle, au commencement. Et quand il vous a créé, il a créé également votre compagnon ou votre compagne, votre épouse. Et dès les temps les plus reculés, à l'origine, et on peut dire bien au-delà de votre histoire connue ou votre capacité de nous souvenir ou de vous souvenir, vous étiez tous dans le plan de Dieu dès le commencement. Vous êtes donc un esprit vivant et éternel. Votre corps vous est prêté, c'est une enveloppe que vous avez, pour un temps de séjour terrestre. Il n'est donc pas éternel sur terre. Il aurait pu, mais voilà, on sait pourquoi. Être éternel, vous n'avez ni un commencement, ni une fin. Un être qui est prévu pour être éternel n'a ni commencement ni fin. Et là, caché dans des millions de siècles oubliés, nous étions dans sa gloire, appartenant à son esprit et fait déjà à sa ressemblance comme il l'avait prévu. Et là, il nous a créés mâle et femelle. Ésaïe saisit bien cette vérité au chapitre 34, verset 16, lorsqu'il dit « Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Pas un d'eux ne manquera. L'un n'aura pas à chercher l'autre, car ma bouche l'a commandé et mon esprit les a rassemblés. Il leur a donc donné leur part de destinée. Et c'est ce que Jésus expliquait quand il a dit « N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits dès le commencement les a faits mâles et femelles et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère » et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, et que l'homme ne le sépare jamais, il ne doit pas le séparer. Consultez Saint Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Voyez-vous, Dieu n'a pas prévu qu'un homme ou une femme passe toute sa vie sans compagnon, ou, comme le dit une traduction, dans la solitude. Mais c'est le péché qui a grandement ruiné carrément le plan divin. Les guerres, les crimes, la décadence morale, l'avortement, la maladie et bien d'autres tragédies causées par la désobéissance de l'homme envers Dieu ont détruit les compagnons et les compagnes que le Seigneur avait choisis pour ceux et pour celles qui ne les ont donc jamais trouvés. Et c'est pour cela que beaucoup ont mené une vie de solitude et de frustration, également de rejet et d'insatisfaction. Le célibat, en quelque sorte, n'a pas été prévu par Dieu, n'est pas non plus le choix préférentiel du Seigneur pour l'être humain. Voyez-vous, Dieu a créé l'homme pour qu'il ait une compagne avec qui parler et se promener. Il voulait donc partager avec lui son pouvoir sur la création. Et c'est parce que Dieu lui-même avait besoin d'une relation intime avec un être vivant qui soit capable de gérer la terre et ce qu'elle renferme, qu'il a formé Adam. Et comme Adam avait été créé à l'image et à la ressemblance divine, il éprouvait lui aussi ce désir d'avoir une compagne. Et c'est pour cela que l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il avait donc besoin d'un compagnon de cœur et d'esprit. De la même manière, l'homme en avait également besoin. Adam avait été créé pour le réconfort de Dieu. Ève, elle l'a été pour celui d'Adam. Et comme Ève était l'aide d'Adam, l'homme devait être l'aide de Dieu. Si l'homme ne remplit pas cette vocation suprême, eh bien, croyez-moi, il vit sans aucun but, car il a été créé ainsi, en quelque sorte, en vain. C'est pas drôle du tout de penser à une chose pareille. Si l'Éternel n'avait pas créé de compagnon, ou plutôt de compagne pour Adam, eh bien, son œuvre aurait en quelque sorte été inachevée. C'est donc ensemble que Adam et Ève complètent l'œuvre divine. Alléluia. Adam seul ne représente que la moitié du plan créateur de Dieu. J'ai bien dit que la moitié. Ce serait tout aussi vrai pour Ève si Dieu l'avait formée sans Adam, ce qu'il aurait pu faire aussi facilement. Considérons cela comme étant un cercle. Un homme seul est en quelque sorte un demi-cercle. Une femme seule est en quelque sorte un autre demi-cercle. Ils sont donc de sexe opposé et constituent ainsi un élément positif ainsi qu'un élément négatif. Il faut unir les deux pour former un cercle parfait. Et c'est pour cela qu'il est écrit « Un seul en poursuivra mille et deux en mettront 10 000 en fuite. » La différence vient donc du fait qu'en s'unissant, les deux créent ainsi une protection. Un demi-cercle seul et sans défense. Le Seigneur a prévu que nous puissions aller deux par deux. Alors Dieu a créé deux par deux, et cela quand il a fait Adam et Ève. Voyez-vous, lorsque Noé, sa femme, ses trois fils et leurs femmes ont été sauvés du déluge, Dieu les a épargnés deux par deux pour récupérer et repeupler ainsi toute la terre. Il avait envoyé Moïse, rappelez-vous, et son frère Aaron, et cela pour délivrer les enfants d'Israël d'Égypte. Il n'a pas envoyé Moïse tout seul. Jésus a envoyé ses disciples, si vous lisez attentivement les évangiles, deux par deux. Et saint Paul n'a jamais manqué de compagnons de route dans tous ses voyages missionnaires. Il existe une force très puissante quand deux cœurs sont vraiment unis dans une vision et un but commun. Satan le sait très bien et il a cherché depuis le commencement à détruire les relations conjugales. Il assiste à toutes les cérémonies de mariage, que vous le croyez ou pas. Il commande à ses démons. Et oui, c'est vrai. Regardez un peu ce couple heureux. Ça m'énerve. Je t'ordonne démantelait-elle? Esprit de confusion, de leur voler cette joie. Donc tu dois créer la division entre eux. Oh là là, et croyez-moi, aujourd'hui plus que jamais, on voit que les démons sont en activité comme jamais, et le pire est à venir. Commence par susciter des problèmes. Tout cela commence à susciter des problèmes, car cela sème la discorde. Et les esprits mauvais, qu'on appelle démons, ils font tout jour et nuit pour détruire et pour renverser la plus belle institution jamais créée, c'est-à-dire celle de la famille. Il existe un parallèle intéressant dans la Genèse. Il est écrit « L'Éternel Dieu a fait venir les créatures vers l'homme » Genèse 2, verset 19. Puis, il a amené la femme vers l'homme. Chapitre 2, verset 22. Comme Adam a nommé tous les animaux, il a nommé sa femme également. Et l'homme a dit, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Je prononce peut-être mal os parce que en allemand, on dit chaque syllabe, n'est-ce pas? Mais vous l'avez compris, ça veut dire l'ossement de notre corps, n'est-ce pas? Et la chair de ma chair, celles-ci seront donc appelées femmes, et cela voulait dire en ce temps-là, Isha. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. L'homme, c'était Ish, et la femme, Isha. Ce n'est du reste qu'après la chute qu'elle a été appelée Ève. Mais avant, elle s'appelait Isha. Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Genèse, chapitre 3, verset 20. Ève signifie le récipient de vie. C'est donc un très beau titre. Mais voyez-vous comment la relation d'Adam et d'Ève les a éloignés peu à peu l'un de l'autre. Ça, c'est le travail de l'ennemi, de saper, de détruire cette harmonie. Il l'appela d'abord sa femme Isha, c'est-à-dire c'était la partie de son corps. C'était donc Ève, Isha. C'est la chute qui avait commencé à les séparer. Examinons un peu de plus près le mot « épouse ». En hindi, dont de nombreux termes sont tirés du sanskrit, l'une des plus anciennes langues connues, c'est, comme nous le savons, le sanskrit. Et le mot « femme » se dit « art-hang-ani ». Je répète, « art » trait d'union, « hang » trait d'union, « ani ». Je le coupe exprès en trois syllabes, car chacune a un sens précis. Par exemple, « art » veut dire « moitié ». « Ham veut dire corps et ani veut dire sortie. Le mot handi pour épouse est donc la moitié du corps est sortie. Ce terme est vieux de milliers d'années. Il remonte à un passé immémorial. Chaque femme a donc besoin de réaliser son identité. Elle est la moitié qui a été tirée de l'homme. Elle a été prise de son être le plus intime, du siège de ses passions, du centre de son esprit. Et c'est pour cela qu'un homme doit aimer. Il doit aimer sa femme comme son propre corps, car elle fait partie de lui. Et saint Paul nous dit, comme l'Église est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses, Éphésiens 5, verset 24. Cela nous conduit à demander, la femme doit-elle obéir à son mari quand il a tort ou quand ses pensées sont perverties par le péché et qu'il est contrôlé par des démons? Doit-elle lui offrir son corps et se soumettre à des actes répugnants de pure orgie? Jamais, jamais. Non, sachez-le, jamais. L'apôtre dit aussi, il dit, « Femme, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur, dans le Seigneur. » Colossiens 3, verset 18. Or, aucun mari sérieux ne voudrait être responsable de mettre sa femme sous la condamnation ou d'envoyer son âme en enfer. Ce serait un monstre. Supposons, et ça arrive de nos jours, qu'un homme envoie sa femme pour vendre son corps à des hommes. C'est loin d'être une bénédiction, cela. C'est totalement le contraire. Mais croyez-moi, je voudrais jamais être à la place plus tard de cet homme. Jamais, jamais. Car il va lui arriver le pire qu'il peut s'imaginer. Donc s'il y a tant soit peu de bonté en lui, il cherchera à la protéger de tout ce qui pourrait lui nuire. Il peut, s'il le souhaite, envoyer son âme à lui. Donc, il peut envoyer son âme, sa propre âme, en enfer, pourquoi pas? C'est son choix. Mais s'il à la moindre parcelle de bonté, même un minimum, il essayera certainement d'empêcher sa femme de désobéir à Dieu. Hélas, c'est un rêve doux que j'ai et que j'espère encore qu'il puisse exister. Voyez-vous, si la force à pécher, supposons, et qu'elle perde ainsi son âme, croyez-moi, il recevra au jour du jugement une punition bien plus sévère qu'il peut s'imaginer. Et ceux qui lui ont dit qu'il avait tout pouvoir sur elle pour l'entraîner au mal, ceux-là seront jugés avec lui. Il y a un esprit d'excessive domination dans le pays en ces derniers temps. L'homme cherche à maîtriser, à obtenir la suprématie sur les autres créatures de Dieu. Ils ont sorti les enseignements de la Sainte Parole de Dieu de leur contexte et ils s'en sont servis pour diriger et écraser carrément les esprits de ceux qui ne sont pas assez forts pour leur résister ou qui ne connaissent pas suffisamment les Saintes Écritures pour s'opposer à eux. Personnellement, je ne peux comprendre pourquoi une femme se soumet à cet esprit de dictature, surtout quand elle habite un pays libre où aucun gouvernement tyrannique ne lui impose rien. Je peux comprendre qu'une femme qui est trop faible pour résister à la tentation et qui manque de consécration ou d'amour envers Dieu, trouve là, en quelque sorte, une bonne façon de s'en tirer. Elle peut facilement se donner des excuses, surtout quand son mari l'exige, pour aller passer avec lui un week-end de jeu à Las Vegas ou ailleurs, une soirée dans un bar mal famé, voir un film pornographique ou autre. Et ses instructeurs religieux lui ont dit qu'elle devait obéir à son mari. Je ne voudrais pas être à la place de ses instructeurs religieux. Elle peut pratiquer ces choses et ne peut pas se sentir coupable si le Saint-Esprit va la convaincre. Alors là, elle court vers ses conseillers qui la conforteront en quelque sorte par un lavage de cerveau un peu plus complet et lui diront « Ne vous en faites pas, ce ne sera pas de votre faute. Vous avez donc aucune responsabilité dans ces choses. » Eh bien, je veux vous poser une question, chers amis. Jusqu'à quel degré de péché puis-je aller sans recevoir aussi la malédiction qui va accompagner ce fameux péché? À quel moment les graines que je sème vont-elles cesser de produire du fruit? Jamais, jamais. Non, on ne peut pas sans payer très cher plus tard, commettre n'importe quoi. Pourquoi les femmes qui connaissent pourtant la Sainte Parole de Dieu ne se soumettent-elles pas à la Parole de Dieu? Parce qu'elles ne voient pas Dieu dans leur mari, tout simplement. Quand une femme pieuse, croyante, quand elle voit Dieu dans son époux, elle ne peut s'empêcher de l'aimer, de l'honorer, de lui obéir, de lui être soumise, car elle sait quoi? Elle sait qu'il écoute le Seigneur, qu'il obéit à Dieu et qu'il agira toujours pour le bien de son âme à elle et pour son bien-être physique. Avez-vous bien entendu cela? Il faudrait presque le répéter, mais vous pouvez réécouter ce message. Voyez-vous, la femme hindoue, elle a des enfants, elle a été conduite à croire qu'il n'y a pas de salut pour les femmes. C'est ce qu'on leur a fait croire. Donc son seul chemin de salut passe par son mari, il est donc son Dieu. Son salut dépend donc de lui. Il semble que l'on ait, ces derniers temps, incorporé un peu l'hindouisme dans notre fameux christianisme, dans notre fameux christianisme, car il ne fait nul doute que Dieu voulait, il voulait que Adam lui ressemble, mais, et c'est bien triste, les hommes ont pour la plupart perdu complètement la gloire originelle de Dieu. Comment peut-on voir Dieu, notre Père céleste, dans un mari qui se conduirait comme le diable? Ça, évidemment, c'est impossible. De plus, la femme qui essaye de jouer le rôle de l'épouse soumise, elle va devenir frustrée parce qu'elle a été créée pour obéir à un homme qu'elle puisse honorer, qu'elle puisse respecter et ainsi aimer. Donc, elle a été formée pour se tenir aux côtés de l'homme, non pour le diriger, mais s'il ne veut pas, en quelque sorte, s'il ne veut pas être conduit par Dieu, alors, je vous le demande, qu'est-ce qu'elle peut faire? Doit-elle rester tranquille parce que son époux se révolte contre le Seigneur? Doit-elle aller en enfer parce que son mari y va? Jamais, jamais, mais non. Ce sujet, il suscite beaucoup plus de confusion dans certains pays comme l'Amérique que sur le champ missionnaire. Notre tête connaît tellement de choses et notre cœur en connaît si peu. J'entends par là notre esprit et notre âme. Oh, si nous pouvions suivre la conduite de l'Esprit de Dieu, je ne veux pas dire que les femmes doivent diriger leur mari, ou doivent se révolter, ou prendre autorité sur leur mari, parce qu'ils sont trop faibles spirituellement. Mais une femme doit se déclarer pour le Seigneur pour gagner son mari par son saint comportement. Comment pourriez-vous sauver quelqu'un de la fange et du marécage si vous sautez dedans avec votre mari? Vous devez bien au contraire, chères épouses que vous êtes, vous devez vous tenir sur le sol ferme et vous devez retirer, si vous pouvez, avec l'aide du Seigneur, vous pourrez, votre mari de le retirer du marécage et de toute cette fange dégoûtante. Croyez-moi, mon épouse a été pour moi un exemple. C'est pour ça que je dis à n'importe qui, pour moi c'était ma sainte épouse. Pour moi, elle était une sainte, ça engage que moi. Parce que sans elle, étant donné que mon père s'est marié 5 fois, que j'ai pu faire que quelques années d'école primaire, en tout 4 ans, que j'ai été battu par les marâtres et maltraité à l'extrême, que j'ai dû fuir pour sauver ma vie, j'aurais mal fini, et je le dis en plaisantant, sans trop plaisanter, j'aurais terminé à Alcatraz ou à Sing Sing. C'est une façon de dire, vous l'avez compris, donc en prison. Eh bien, à cause de cette sainte épouse, qui malheureusement est morte il y a plus de 22 ans par erreur médicale, eh bien, je reconnais que c'est elle, que c'est elle qui a été prévue par Dieu pour éviter que mon âme se perde. Et c'est la vérité. Donc une femme peut faire des choses inouïes pour l'homme. Si seulement l'homme en ferait autant pour la femme, hein, c'est une question. L'autre aspect de la question est tout aussi important. Il est dit, Marie, aimez vos propres femmes. Eh oui, voyez, c'est pas en sens unique. Marie, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même à la croix pour elle. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. C'est le verset préféré des femmes. Nous avons vu comment l'épouse devait se soumettre à son mari et c'est tout ce que la Sainte Bible exige d'elle. Mais savez-vous, et c'est bizarre, que l'apôtre Paul ne dit jamais qu'une femme doit aimer son mari. Il dit pas ça. Il lui dit simplement de s'y soumettre. Aimer, ça viendra automatiquement. Un grand commandement est donc donné au mari quand il est dit qu'il doit, le mari, aimer. Ah, ça change, qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré pour elle. Lorsqu'une femme a un mari qui l'aime de cette façon-là, elle sera volontiers un esclave d'amour pour lui. C'est ce que ma sainte épouse a été pour moi. Elle fera tout pour lui. Si les femmes trouvaient des époux qui les aiment comme Jésus-Christ aime l'Église, elles seraient submergées par leur affection. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment sincèrement leurs femmes, mais l'apôtre Paul parle ici d'un amour qui dépasse de beaucoup l'affection naturelle. C'est l'amour que Christ a pour l'Église, l'amour immense, un amour sacrificiel de l'époux pour l'épouse. Oh oui, comme Christ languit et comme il soupire après son épouse. Voilà donc l'amour que les maris doivent porter à leur femme, un amour qui protège, qui pourvoit et qui partage tout avec elle, même son compte en banque. Pardon, et oui, et c'est vrai. La dernière partie du verset 25 nous dit, Marie au pluriel, Aimez vos propres femmes comme Christ. Comme Christ s'est livré lui-même et s'est livré lui-même pour les aimer, pour aimer leur épouse et pour aimer l'Église. C'est merveilleux cela. Et je voudrais le répéter si possible, c'est pas défendu. Donc la dernière partie du verset 25, on était dans Éphésiens chapitre 5, ce verset nous dit que les maris, au pluriel, il dit « Aimez vos propres femmes comme Christ ». Comme Christ s'est livré lui-même pour l'Église. Oui, en effet. Donc, le mari doit se donner entièrement à son épouse. Il doit abandonner une partie de lui-même. Certaines, par exemple, de ses idées, un peu de sa volonté, son temps personnel et quelque chose que certains maris n'aiment pas, est son argent. Car son argent appartient autant à son épouse qu'à lui. C'est une vérité absolue. Et aussi vice-versa, bien entendu. Il ne peut s'en tenir à sa volonté exclusive, à ses désirs et à ses passions égoïstes et souvent égocentriques, et espérer ainsi réussir son mariage. Il doit même partager, comme je l'ai déjà dit, son fameux compte en banque. C'est ainsi que le Seigneur partage avec nous. Il ne nous dit pas le compte bancaire du ciel n'appartient qu'à moi et vous ne pouvez tirer aucun chèque dessus. Il ne dit pas ça. Oh non, non. Mon époux céleste nous dit et me dit, quoi que vous demandiez à mon nom, je le ferai. Bien sûr, vous avez bien compris que nous ne demanderons pas une Lamborghini ou une propriété fabuleuse au bord de la mer avec piscine, avec tout le reste. Ce n'est pas une nécessité. Il y a des choses beaucoup plus précieuses et utiles que simplement ce qui représente de l'argent. J'ai tiré de nombreux chèques à l'ordre de la Banque du Ciel, et cela sur le compte de mon épouse céleste. Et, croyez-moi, il les a tous honorés selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Puis, l'apôtre dit au mari, il dit, aussi au pluriel pour les maris, « Aimez vos propres femmes comme Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifia en la purifiant. » Donc, comme Christ à sanctifier son épouse, l'Église, par son ministère sacerdotal, le mari est appelé à porter la responsabilité du prêtre pour sa maison et à intercéder devant le trône de Dieu et à offrir des sacrifices pour les siens. Il doit donc suivre l'exemple de Job qui offrait des sacrifices pour sa famille. Job envoyait vers eux et les sanctifiait. Il se levait de bonne heure le matin et il offrait des holocaustes selon leur nombre à tous, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils même peut-être maudit Dieu dans leur cœur ?» Job faisait toujours ainsi, Job chapitre 1 verset 5, « Les pères ne combattent pas pour l'âme de leurs fils et pour leurs filles comme ils devraient, surtout de nos jours. Qu'est-ce que vous pensez ? Ils viennent de dire aux nouvelles, il y a 2 jours, à la radio, à la télévision, qu'un homme devait être puni, normalement, il devrait, parce qu'il a séduit une petite fille. Aussi loin que je me souviens, ce genre de choses ont été toujours punies très sévèrement. Autant que je me rappelle. Oh, voilà que le tribunal a relaxé l'homme parce que, soi-disant, la fillette de 11 ans a prétendu qu'elle était amoureuse de cet homme et donc il ne pouvait plus le punir. Où va-t-on ? Et ça, c'est qu'un tout petit exemple de tout ce qui existe aujourd'hui. Hein. Oui, la plupart du temps, ils, les maris, laissent l'épouse se tenir toute seule dans la prière. Dieu appelle au contraire les hommes à se lever et à accepter leur place de responsabilité pour aider leur femme à mener une vie pure et sainte devant Dieu. Beaucoup d'hommes sentent qu'ils doivent lutter avec Dieu pour obtenir l'attention de leur femme. Ce n'est pas nécessaire. Chaque femme doit avoir un temps de culte sacré qu'elle puisse avoir seule avec Dieu, et surtout aussi avec son mari. Il est très triste de dire que trop rarement les maris prennent leur épouse par la main et qu'ils lui disent « Ma petite chérie, prions maintenant ensemble. » Trop rarement, croyez-moi, ils ouvrent leur Bible et déclarent « Écoute, j'ai lu quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec toi. » Bien peu de femmes voient leur mari lire ouvertement leur Bible et presque jamais se mettent à genoux. Se mettre à genoux demande de l'humilité. Hein? Or, nous sommes tellement égoïstes, imbus de nous-mêmes. Aucun moment n'est réservé au culte familial. Ils ont totalement oublié que la famille qui prie ensemble va rester ensemble. Les prières sont pour la plupart devenues des bonsoirs, assez rapide et ensommeillé, et le mari ne s'éveille au matin que pour offrir son amour charnel à sa femme et surtout pas à son Dieu. Parce que la femme est la plus sensible des deux, elle se met à éprouver l'étrange sentiment d'un Dieu très lointain. Son âme rend vers la présence du Seigneur et il devrait tendre vers la présence du Seigneur, c'est ce que je voudrais dire. Mais à cause de sa soumission, elle va attendre que son époux dirige leur temps de communion et, lorsqu'il ne le fait pas, et on sait bien que la plupart du temps, il ne le fait pas, alors elle se sent frustrée, et je la comprends. Et en elle va grandir un certain vide, une insatisfaction. Elle perd ainsi peu à peu le respect pour son mari et son rôle de prêtre. Il devrait garder son rôle de prêtre et il ne l'est plus, il n'est même plus, selon les critères divins, un véritable mari, car il n'agit pas en sacrificateur, il n'est que un partenaire de lit, une sorte d'esclave qui travaille pour la nourrir et pour la vêtir. Oh là là! Si le mari ne prend pas la place officielle que Dieu lui a assignée de être un chef spirituel et qu'il ne conduit pas sa femme dans la mesure de ses connaissances, dans les choses de Dieu, eh bien, il n'y a pas de mariage idéal dans ce cas-là. Pour être prêtre, il faut offrir des sacrifices. Dieu a besoin d'hommes qui soient prêts à offrir des sacrifices devant lui et pour lui, pour le bien-être et pour la bénédiction de la famille. Saint Paul poursuit son exhortation aux maris quand il dit « Les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Et celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. » C'est joliment dit cela. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, en général. Mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ chérit l'Église, prend soin de l'Église. Éphésiens, chapitre 5, versets 28 et 29, lisez cela tranquillement, sitôt que vous avez le temps. L'attention qu'un homme va porter à sa propre chair et sa façon de la protéger de la faim et des agressions, de la chaleur et du froid, de toute espèce de nuisance, sa façon de l'habiller, de en prendre soin, même si la peau est rêche, de mettre un peu d'huile, je veux dire par là de la soigner, de la nourrir et lui donner des mets délicats, eh bien, cet homme doit aussi, il devrait, c'est vraiment important, il devrait également les donner à sa bien-aimée épouse. Quand il lui achète une jolie robe, c'est en quelque sorte pour lui-même qu'il l'achète. Quand il lui passe un diamant au doigt, pour autant qu'il le peut, ce n'est pas obligatoire. Mais dans ce cas, c'est lui qui porte ce magnifique bijou en quelque sorte. Quand il achète un steak, ça il peut. C'est lui qu'il nourrit. Quand il la protège, sa femme, dont il la protège des mauvaises langues ou de critiques acerbes, eh bien c'est lui-même qu'il protège. Elle est lui, elle est en effet lui, et quand elle est blessée, il est blessé. Quand elle souffre, il souffre également. Ça, c'est l'amour. Elle est une extension de lui-même. Saint Paul conclut son message: c'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Que chacun de vous aussi, en particulier, aime sa propre femme comme lui-même, et quant à la femme, qu'elle craigne son mari. Éphésiens, chapitre 5, versets 31 à 33. Craindre son mari ne veut jamais dire en avoir peur. Si elle devait en avoir peur, ce serait grave, très grave. Ça veut dire tout autre chose, mais vous pouvez trouver la réponse dans des bons dictionnaires ou dictionnaires bibliques. L'apôtre dit ici qu'un homme doit couper le cordon ombilical avec sa mère. Il y en a qui l'ont jamais fait. Il doit chercher son réconfort uniquement dans son épouse. Il doit bien sûr continuer à honorer et respecter sa mère, ça va sans dire. Et il doit partager encore de nombreux bons moments avec elle, mais toute son attention doit et devrait à présent se porter vers sa femme, vers son épouse bien-aimée, car elle fait partie de lui. Elle est son Ève, donc sa femme, son réconfort. Beaucoup de relations conjugales sont détruites parce que le mari ne parvient jamais à rompre définitivement les liens maternel ou le lien maternel. La femme est donc agacée, on la comprend, par les interférences de sa belle-mère, et le mariage va évidemment en souffrir. Pour terminer cette étude, disons que le mariage est la construction d'une nouvelle relation. Chaque famille est une institution en soi. Elle a besoin de tout l'amour et de tout l'effort qu'on peut lui donner. De nombreux sacrifices devront être faits. Le mariage ressemble à un grand chêne solide qui pousse à partir d'une bouture qui a été plantée le jour de la cérémonie. Il lui faut donc du temps pour devenir beau et fort. Il subit les rayons du soleil et la neige bien hivernale. Il se couvre donc parfois de gel et une de ses branches, même épaisse, peut casser sous le poids de beaucoup de neige. La foudre peut aussi le frapper. Mais par la grâce et par la bonté de Dieu, il va s'embellir avec l'âge.